Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
Vous écoutez
Geneviève Peterson,
Cube Radio.
On se parlait des fameux codes de couleur en début d'émission. Je vous disais, Montréal, on est encore dans le vert. Mais là, il y a la directrice régionale de la santé publique qui nous dit que dès la semaine prochaine, on pourrait passer au jaune parce qu'on a 20 éclosions dans des milieux de travail. On a 2 éclosions bien délimitées dans des écoles, 1 dans un service de garde. Donc, ça va être à surveiller dans une semaine ou 2 si on continue comme ça, dans le sens où si l'ensemble des indicateurs sont vers une tendance à la hausse, en termes de nouveaux cas, on pourrait passer au jaune. Et si on passe au jaune, ça veut dire qu'on peut passer aux autres couleurs plus préoccupantes et que peut-être ça pourrait faire augmenter notre niveau d'anxiété et de détresse psychologique, parce que ce qui nous pend au bout du nez, évidemment, c'est cette deuxième vague, donc possible reconfinement. Est-ce que ça va faire encore plus de dommages sur la santé mentale des Québécois que ce qu'on a connu ce printemps? Je vais en parler avec Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue clinicienne. Bonjour, Madame Beaulieu-Pelletier.
Bonjour.
Bon, on a l'Agence statistique Canada qui a demandé aux Canadiens d'évaluer leur santé mentale en indiquant si elle était mauvaise, passable, bonne, très bonne ou excellente. 67% des Canadiens âgés de plus de 12 ans, et ça c'est dans 10 provinces, là, ont indiqué que leur santé mentale était très bonne ou excellente en 2019, mais c'est une baisse de 5% comparativement à 2015. Ça a l'air de pas grand-chose, mais on le voit dans les résultats de cette enquête-là qui a été fait qu'en ce moment, il y a une espèce de tendance au niveau de notre santé mentale. La santé mentale des Canadiens se détériore.
Oui, tout à fait. C'est sûr que là, on parle de contexte très particulier, très stressant. Donc oui, dans des périodes, par exemple, l'idée de la pandémie comme telle peut être très anxiogène, mais là, on rajoute à ça des mesures, par exemple, de confinement et des mesures sanitaires qui sont plus contraignantes. Alors oui, déjà au début, on se disait, oui, la santé mentale devrait potentiellement être affectée, et plus les semaines passent, plus les mois passent, bien, plus on s'attend à ce que les effets soient là sur la santé mentale.
Mais qu'est-ce que les gens trouvent le plus difficile en ce moment, là, selon vous?
C'est une excellente question. Il y a plein de facteurs. Alors, pour chacun, si par exemple quelqu'un a perdu son emploi, ça peut être un stress immense. Ça fait partie des grands stress parce que ça éveille un paquet d'angoisse, des incertitudes, des inquiétudes financières. Donc ça peut être un cas de figure très précis. Il y en a qui vont vraiment développer des grandes angoisses par rapport au fait de contracter la COVID comme telle. Donc, on parle vraiment sur un plan de la santé. Pour d'autres, c'est vraiment un débordement, par exemple, parental, d'essayer de concilier, par exemple, pendant plusieurs mois, la présence des enfants, le télétravail. Donc, pour chacun, ça peut être une manifestation différente, puis des facteurs différents qui vont être à la source de l'anxiété. Mais justement, comme ça peut être différents facteurs, bien, donc on a potentiellement plus de probabilité de développer justement des symptômes ou à tout le moins des manifestations d'anxiété. Pour certains, ça va être de la dépression. Pour d'autres, ça peut même aller jusqu'à, par exemple, un trouble de stress post-traumatique. Donc, ça peut vraiment être de différents ordres.
OK. Là, je pense que c'est indéniable qu'on s'en va vers une deuxième vague. Là, je le disais, là, cette idée de se reconfiner, c'est une idée qui est difficile à accepter pour bien des gens. Moi, la première. Puis je pense quand même, Madame Beaulieu-Pelletier, qu'un avantage qu'on a eu au premier confinement, c'est que c'était un peu le printemps. Hein? Ça s'est passé vers la fin de l'hiver. Là, cette idée qu'on pourrait être amené à se confiner pendant l'hiver, de peut-être pas voir sa famille à Noël, d'être enfermé au mois de janvier. On sait que ces mois-là sont déjà très difficiles pour bien des gens. Là.
Oui, puis effectivement, déjà, il y a l'effet long terme. Donc, comme on se disait, plus le temps passe, plus l'effet est là. Mais oui, clairement, la première vague, si on veut, il y a d'un l'effet de nouveauté. Donc, on dit, on se mobilise, il y a aussi de l'espoir, on sait pas trop vers quoi.
On est comme sur l'adrénaline, un peu.
Exactement. Là, finalement, bon, l'été, ça nous a donné quand même une petite pause. Hein? Donc, ça nous permettait quand même de pouvoir s'apaiser un peu plus. Et là, oui, avec l'automne, avec l'hiver, en étant déjà un peu moins en contact avec d'autres, mais aussi en ayant connu la première vague et en sachant que ça se peut qu'on en ait pour un temps avant, par exemple, qu'il y a des traitements. Donc là, on est en terrain connu, mais un terrain connu qui qui est pas très confortable, qui est pas très agréable. Alors oui, ça peut vraiment, vraiment là, avoir un impact. Et déjà, sur l'humeur des gens, oui, l'automne, l'hiver, hein, il y a des facteurs, là, ne serait-ce que la luminosité qui vient jouer, mais oui, si en plus, on peut, par exemple, ne pas avoir de rassemblement pendant le temps des fêtes, c'est sûr que ça va venir nous influencer chacun.
Mais vous savez, Madame Beaulieu-Pelletier, selon cette enquête qui a été menée par Statistique Canada, la santé mentale des Canadiens, elle se détériore et ça date d'avant la COVID-19. Tu sais, moi, je me rappelle, avant la pandémie, on faisait beaucoup d'entrevues, notamment sur l'anxiété chez les jeunes, tu sais, qui est en constante augmentation. Le stress, la dépression, ça allait déjà mal avant. Qu'est-ce qui se passe avec nous autres?
Encore une fois, il y a beaucoup de facteurs, mais il y a les tendances qui peuvent ressortir de ça, c'est aussi plus le temps passe, plus les années filent, pour plusieurs, par exemple, on est moins authentiquement avec nous-mêmes. Donc, par exemple, il y a eu beaucoup là une tendance à investir beaucoup, beaucoup le travail, par exemple. Et tranquillement, pas vite, ben, se déconnecter peut-être de priorités qui étaient un petit peu plus proches de nous-mêmes, un peu plus authentiques avec qui on est réellement. Donc ça, c'est un cas de figure. Pour d'autres, une tendance à accumuler un paquet d'activités, vraiment se remplir le quotidien, si on veut. Et tranquillement, mine de rien, on avance dans la vie et finalement, on est peut-être un peu à côté de ce qui nous parle réellement. C'est pas nécessairement le facteur pour tout le monde, mais disons que ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus à l'avant-plan. On est fatigué, hein, on est épuisé, on a beaucoup à faire face finalement. Beaucoup de problématiques sociales aussi auxquelles on doit réagir, auxquelles on doit répondre. Alors, il y a vraiment là, ça, c'est quelques facteurs, mais on est de toute part, je dirais, pressurisé.
Oui, puis j'ai envie qu'on se parle peut-être de l'avènement des médias sociaux. Est-ce qu'on peut voir une certaine adéquation entre la montée de la détresse puis la popularité de ces plateformes-là? Parce que là, en ce moment, on a une montée absolument incroyable du mouvement anti-masque. Cette semaine, on a eu toute cette histoire des menaces de mort envers le premier ministre. Je me dis, le confinement mélangé aux médias sociaux, est-ce que ça peut avoir des effets néfastes sur, justement, l'agressivité, augmenter la paranoïa? Parce que visiblement, là, il y a une certaine quantité de personnes en ce moment qui voient certains comportements pensés à être exacerbés. Là.
Oui, bien, à la base, on est des êtres sociaux. On a besoin d'être en contact avec les autres. Et c'est ce besoin-là qui a été mis à rude épreuve dans les dernières semaines, finalement. On parle aussi, par exemple, du besoin d'autonomie, hein, de pouvoir décider par nous-mêmes de notre quotidien, de nos choix. Et c'est sûr que dans des contraintes, des mesures qui sont décidées pour nous, en fait, c'est nos besoins psychologiques, finalement, qui sont frustrés, qui sont insatisfaits. Alors oui, les réseaux sociaux permettent, de répondre à ce besoin-là. Donc, je suis en contact avec d'autres gens. Et finalement, si par exemple, je me sens moins inclus, je m'identifie moins à la norme ou au contexte actuel ou par exemple à ce qui m'est proposé de façon générale, bien, ça se peut que j'ai tendance à finalement m'identifier, par exemple, à un groupe par exemple, là, vous parliez des groupes anti-masques. Mm-hmm. Donc, peut-être que ça va me parler davantage et finalement, je vais pouvoir aller combler mon besoin, par exemple, d'être en relation de cette façon-là. Donc, en m'identifiant à d'autres gens. Donc, ça, c'est ce qu'on peut voir là dans l'utilisation des réseaux sociaux. Et en soi, pour certains, ça peut être très bénéfique, dans le sens où ça nous permet quand même de pouvoir créer des contacts qui sont pas nécessairement possibles au quotidien. Mais oui, il peut y avoir certains dérapages aussi.
Très bien, Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue, clinicienne, professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. On se demandait si une éventuelle deuxième vague et un reconfinement pourraient faire encore plus de dommages sur la santé mentale des Québécois.